la gestion d'événements. On en jase avec Nicolas Cournoyer, directeur général de l'Igloo Fest et du Pique-nique électronique. Bon podcast!
Allô?
Salut Nicolas! Tu veux-tu me parler un peu de ces événements-là?
Pour ce qui est d'Igloo Fest, c'était notre 10e anniversaire cette année, on se le part. C'est un événement qui a commencé avec un seul week-end de 2 jours. On avait eu environ 4000 personnes pour la première édition. Là, pour notre 10e édition, on a eu 79 000 personnes. C'est un événement qui a lieu du 14 janvier au 6 février. Là, c'est 4 week-ends de 3 jours, donc 12 soirées, du jeudi au samedi. Fait qu'on peut avoir, selon les soirées, là, entre 2500 et 10 000 personnes qui viennent chaque soir.
Quand même, ça fait de la visite, ça?
Oui, ça fait pas mal de visites. Quand on considère que c'est un événement d'hiver, d'avoir 12 soirées en un mois, c'est quand même c'est un défi colossal. Mais on est chanceux, les gens embarquent dans le concept, puis dans le fait de pouvoir profiter de l'hiver, puis s'amuser au lieu de se plaindre.
Oui, c'est ça. Puis on sent que c'est de plus en plus populaire. Le monde se le planifie, l'attente, c'est comme vous avez quasiment réussi à donner le goût à l'hiver aux citoyens. Urbain.
Pour la petite histoire, il y a un ancêtre à l'Igloo Fest.
On a fait
2 éditions du pique-nique électronique des neiges. Okay. On a eu 2 éditions par Jean Drapeau. Dans le cadre de la fête des neiges, c'était seulement une soirée, c'était le samedi soir. C'était un test qu'on a fait pendant 2 années. Puis dès lors, la réponse était super bonne. Mais l'idée, c'était de faire sortir les gens, de se dire, ça leur prend une bonne raison pour aller dehors et profiter de l'hiver. Ben, on va leur donner une bonne raison. Parce que les événements, oui, il y en a des qui sont plus familiaux, mais vraiment des événements festifs qui s'adressent aux jeunes et moins jeunes. Ça va de 18 ans à 35 ans, le gros de notre public, et ça va même au-delà de ça. Fait que, on s'est dit, OK, on se donne ce défi-là, puis je dirais que c'est une des fiertés que l'on a après 10 ans, de se dire que maintenant, on entend de plus en plus des gens dire « Hey, j'ai hâte à l'hiver parce qu'il y a Igloo Fest. » Une chose que les gens remarquent après ce mois-là, hey, on a passé à travers le mois le plus froid de mi-janvier à mi-février, c'est quasiment rentré au printemps. Bon.
Au niveau du pique-nique électronique, ça commence le 17 mai, c'est jusqu'au 27 septembre. Ça fait combien de dimanches, ça?
Ça dépend des années, là, mais l'année passée, c'était 22 événements.
Fait que mine de rien, ça vous fait quand même 34 journées, soirées à travers l'année, ça?
Oui, puis l'année passée aussi, on a commencé notre événement qui s'appelait VHS, qui est Van Horn Station, qui était sous le viaduc Van Horn. On a fait 3 événements-là. On fait des collaborations avec d'autres événements. Fait qu'on était avec Chromatique. On est allé au Jardin Gamelin. On a fait 3 dates-là. Fait qu'il y a d'autres événements aussi qu'on fait pendant l'année, qui soient de promotion, de coproduction.
Je regardais sur le site du pique-nique. Maintenant, il y a des pique-niques à travers le monde. Ça fonctionne comment, ça?
En fait, c'est nous qui chapeautons, effectivement, tout ça. Le modèle sert selon... ça dépend des villes. Il y a des villes qu'on est en licence. Il y a des villes où on est en coproduction.
Okay.
Fait que les modèles d'affaires vont différer, mais tous ces événements-là sont sous la bannière pique-nique électronique, répondent à des cahiers de charges, à des ordres de communication, de concept. Il faut vraiment qu'ils respectent l'esprit, la philosophie technique électronique. Mais on a toujours des représentants qui vont sur le terrain pour s'assurer que ça se fait selon les normes. Donc, on a fait ce suivi-là. Et bien, le développement va super bien. On fait Barcelone déjà depuis 4 ans. Ça va être la 5e saison cet été. On est en 2e saison de Melbourne présentement. 2e saison de Dubaï. On commence cette année Santiago, Chili. On a fait Lisbonne l'été passé au Portugal, qui a super bien fonctionné, qui va être de retour l'été prochain. Puis on est dans continuer ce développement. Alors, on veut au moins avoir 1 à 2 nouvelles villes par année.
Dis-moi, pour arriver à faire vivre l'ensemble de ces événements-là, ça fait quoi en termes de ressources permanentes, bénévoles, temps partiel?
Pour ce qui est de Montréal, nous, on est rendu à 150 employés.
150?
Oui, 650.
650.
Oui, les gens à temps plein sont un peu plus nombreux à Igloofest parce que la production comme telle est plus imposante. C'est tout le volet technique, aménagement, scénographie à Igloofest.
Ouais.
C'est beaucoup plus gros. On monte une fois puis on reste monté pendant un mois, tandis que pique-nique, on monte et démonte à chaque semaine.
Ouais.
Que, si on inclut tout le monde, je pense à temps plein, c'était 35 à Igloofest et à 30 pour pique-nique. On s'occupe vraiment de toutes les étapes puis tous les départements. Fait, et nous, nous faisons de la commercialisation, donc les bars, serveurs, busboys, tout ce qui est sécurité, la billetterie, l'accueil, montage, démontage, c'est vraiment des employés que l'on engage puis qu'on sort. Donc, on sous-traite presque pas, à part la concession alimentaire, mais l'été, on en a une aussi qu'on opère au pique-nique.
Mm-hmm.
Mais c'est vraiment de notre personnel, c'est pour ça qu'il y a vraiment une grosse équipe. Nous, on n'a aucun bénévole.
Okay.
Des bénévoles, on en a eu la première année qu'on a fait le pique-nique, là, quand c'était tout petit, puis c'était nos amis qui venaient comme bénévoles. Puis, ils venaient faire quelques heures, une fois sur deux, ils se décommandaient. Fait que, après la troisième semaine, on s'est dit, on est peut-être mieux d'avoir des gens que l'on paye. Je comprends qu'il y a beaucoup d'événements ou de festivals qui fonctionnent avec ça. Tant mieux, mais nous, ce sont vraiment des employés, des gens que. Rémunérés.
Puis au niveau de la programmation, c'est vous autres qui vous chargez d'identifier les DJ, VJ, les contacter,
ouais.
les amener, les héberger aussi?
Oui, en fait, on s'occupe nous-mêmes de faire cette gestion-là. Parfois, les billets d'avion, bon, c'est pas nous qui s'en occupons parce qu'ils sont dans des tournées plus mondiales, mais tout ce qui est hébergement, certains transports, certains billets d'avion et transports locaux, les amener. À l'hôtel, sur le site pour les tests de son, tout ça. On fait toute cette gestion-là. Mais on ne se concentre pas dans un seul créneau de musique électronique. On ratisse très large. Fait que, on va chercher, des valeurs sûres, des vieux de la vieille, beaucoup de découvertes. Et l'événement est quand même très accessible. Au pique-nique, ça coûte 15$ à la porte. Avec c'est 25. C'est pas des événements qui coûtent 50-100$, des fois même plus par soirée. Fait que, on va chercher des artistes qui coûtent des dizaines de milliers de dollars. Fait que, on est dans un autre créneau, on est vraiment dans la recherche, la découverte. Souvent, on va dénicher des artistes qui, dans 2, 3, 4 ans, ils vont devenir des grosses têtes d'affiches. On ne sera plus en mesure de nous se les payer, mais on va avoir été contents d'avoir été les premiers à les produire à Montréal.
Toi puis Louis David, c'est vous autres qui avez parti ça?
On est 4.
Vous êtes 4?
Donc, il y a moi. Il y a Louis-David de Loyer, il y a Pascal Lefebvre et il y a Michel Quintal.
Ah oui, OK.
On est les 4 fondateurs du pique-nique et aussi des Igloofest. On est présents depuis le début des 4.
Quand vous avez parti ça, aviez-vous de l'expérience dans l'événementiel?
Certains plus que d'autres, mais pour la plupart, oui. Dans différentes expériences, moi, je travaillais au Festival de jazz. C'était ma deuxième année au jazz en logistique. Pascal, lui, travaillait en événementiel depuis longtemps. Michel a aussi travaillé avec moi au jazz, puis a produit des pièces de théâtre. Louis-David, lui, était plus en cinéma, en production, puis tourner des films. Donc, on arrivait d'univers un peu différent, parce que même moi, avant de faire de l'événementiel, je faisais du droit. On amenait nos expériences, et surtout la volonté qu'on avait de faire quelque chose qui était différent, qui était marqué en musique électronique, parce que, oui, il y avait plein de choses, il y a eu un boom de musique électronique à la fin des années 90, début 2000, mais les dimanches, c'est un créneau qui était peu utilisé, à part les tam-tams, puis on le faisait aussi le jour pour un peu démystifier la musique électronique, qui était vu comme toujours associé au after, au rave, à quelque chose de plus négatif, à la drogue, alors que, une excellente musique, il y a surtout beaucoup de talent à Montréal. Pour nous, c'est important de les faire connaître.
Parce que c'est vrai, on pense surtout à des événements intérieurs, particulièrement avec des VJ de la programmation. Vous autres, vous avez décidé d'aller jouer dehors avec les risques et inconvénients potentiels liés à la température. Comment vous faites pour manager ça?
On perd des cheveux. écoute, on a appris, c'est une question de gestion du risque, non?
Oui.
C'est clair, pour nous, dans les éléments clés, il faut quand même être conservateur dans ce qu'on fait. Autant dans les budgets, dans la planification.
Ouais.
C'est clair qu'on est à merci de la météo, mais il faut calculer à peu près nos ratios, puis pas aller trop vite non plus. L'avantage qu'on a, c'est en étant répartis à chaque dimanche, ben, c'est pas juste « Ah, on a une édition, puis moi, pendant 4 jours, c'est ces 4 journées-là. »
C'est vrai.
On peut amortir un peu les coûts d'opération sur plusieurs dimanches.
C'est quoi les éléments clés d'une bonne gestion d'événements avec tout ce que vous faites ici et ailleurs? Il doit y avoir comme une couple de règles de base sur lesquelles vous vous appuyez?
Oui. La première, c'est d'avoir une bonne équipe.
Oui.
D'avoir des bons éléments dans chacun des départements, c'est aussi la clé, des gens avec qui on va bien s'entendre, bien travailler. Parce que c'est à partir de là qu'on va faire une bonne qualification. C'est drôle parce qu'en même temps, je donne l'élément de ça prend une bonne planification, et en même temps, ça prend une super attitude pour être réactif en cas d'imprévu et d'impondérable.
Ben oui, hein.
Et l'action-réaction, tout le troubleshooting, parce que c'est beau faire la meilleure planification, ben des fois, ça peut être un commanditaire de dernière minute qui arrive, des fois, c'est une question de météo, fait que si on n'est pas réactif, on n'est pas capable de. Comme on dit à bon Québécois, de se tourner sur une scène. Ça vient avec l'autre chose que ça prend, c'est la tolérance au risque et puis la tolérance au stress. Si tu t'en vas là, puis tu as une idée fixe, tu dis ah bon, ma planète, c'est ça que je fais, puis c'est ça qui va se réaliser, bien, tu risques d'avoir des surprises. Tu peux être très réactif, puis bien, et des fois, tu penses faire un bon coup en faisant telle installation, puis tu te rends compte en bout de ligne, ça marche pas, bien. Si tu es là, ben, il reste encore 3 autres week-ends, puis je réagis pas, puis je fais rien, ben, tu fais un peu.
Puis comment qu'on fait pour regarder sa santé mentale, ces allers-retours-là de température, d'événements, on monte, on redémonte?
Ben, c'est sûr qu'avec les années, on s'y fait, puis on a une meilleure tolérance. Donc, c'est la première des choses. Si on a fait une bonne gestion, puis si on a fait une bonne planification, déjà, on va jouer avec le facteur de stress. Après ça, comment on s'en sort? Ben, on fait notre possible. Pendant un mois d'événement, il y a l'adrénaline qui est présente, puis il va y avoir une fatigue, c'est instable. C'est des siestes, des bouts, tu fais de l'insomnie. Moi, quand je suis en pré-prod, ben, je me lève à 5h, 5h30 du matin. Mm. Mais quand je suis en événement, c'est l'heure quasiment que je me couche. Il faut que j'adapte mes cycles. Mais une chose qui est sûre, c'est quand l'événement est fini, le week-end d'après, ben, décampe dans un chalet, tu reposes, tu essaies de plus penser à ça.
Avez-vous des familles, vous autres?
Moi, j'ai une petite fille de 5 mois.
Ça doit changer la donne avec une petite fille qui arrive dans le mix?
Oui, ça change effectivement la donne. Puis bon, après ma base, tu poses la question, tu dis, ok, c'est quand même intense, un mois, puis
de
manquer les jeudis, vendredis, samedi. Mais le corollaire de ça, c'est comme. On travaille tard, mais ben, je veux dire, les vendredis, même jeudi, vendredi, samedi, ben, je suis plus à la maison durant le jour. Fait que c'est un coup de main que tu donnes différemment.
Ah, c'est vrai.
Et plus présent.
T'aurais-tu des conseils à donner à quelqu'un qui se demande s'il est fait pour ce type d'environnement-là?
Dans les conseils, ben, le premier que je donne souvent, là, pour aller en événementiel, il faut être passionné. Si t'es pas passionné, si t'es pas prêt à travailler, c'est pas le bon domaine pour toi, c'est clair. Parce que il y a des gens qui pensent que ça se fait en client studio, même après quelques années, t'as toujours d'autres défis. Dans les maximes qu'on utilise, c'est prends ça à cœur, prends pas ça à l'heure. Calcule ton horaire en fonction de ce que tu fais, c'est pas le bon métier. Ensuite, faut être persévérant. Faut pas brûler d'étapes. Faut pas aller trop vite. Ensuite, rien tenir pour acquis. Te remettre en question. De réinventer. Parce que oui, tu peux avoir un succès d'une année, 2 années, 3 années, mais si tu veux durer dans le temps, il faut que tu gardes toujours ça en tête. Parce que je veux pas, il y a d'autres événements qui se créent, il y a d'autres gens qui ont des bonnes idées et qui vont les développer. Il y a beaucoup de concurrence, des points directs.
Ouais.
Mais si tu tiens les choses pour acquises, ben, tu finis par te tirer dans le pied. Fait que faut que tu te remettes en question, faut que tu te réinventes, faut que tu restes pertinent. Puis ben, sur du long terme, il faut que tu puisses faire un renouvellement public. Puis le dernier point que je dis, ben, il faut quand même être un peu fou parce que c'est un milieu pas évident. Les gens n'aiment pas travailler dans des horaires atypiques, ben, c'est ça, développementiel. Il faut être prêt à cette polyvalence-là, au changement. Des fois, c'est des longues périodes où tu travailles 6 jours semaine. Mais c'est ça. Il faut quand même être un peu fou pour pour y trouver son compte et surtout avoir du plaisir.
Ben, je pense que c'est ça l'important. Hein? Si tu vends du plaisir, si tu n'es pas capable d'en avoir toi-même...
Non, c'est ça. Oui, on a du fun, on travaille des heures de fou, puis on entraîne du monde dans ce délire-là. Mais si tu n'as pas de plaisir, ça vaut pas la peine de faire tout ça.
C'est tout pour cet épisode. Pour lire l'article que j'ai écrit à ce sujet dans le Grenier Magazine, téléchargez l'application iPad sur le App Store. Et si ça vous dit, poursuivons la conversation sur Twitter en utilisant le hashtag Grenier Mag et mon identifiant Twitter Pizza4All. À la prochaine pointe!